RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Gaëtan Plenet, à la une de président.
À celui qui s'apprête à être nommé en Géorgie, élection au suffrage indirect par les grands électeurs dont les députés, alors que le pays est traversé par des manifestations pro-européennes. En Corée du Sud, il y a bien un président, Yoon Suk-yeol, mais il pourrait être destitué. Une nouvelle motion est votée en ce moment au Parlement, et cette fois, elle pourrait bien acter le départ du chef de l'État après son coup de force et la déclaration pendant quelques heures de la loi martiale. Dans ce journal également, la Syrie, 6 jours après la chute du régime de Bachar el-Assad. Pour ce qui est du désormais ex-président, on sait où il se trouve, en Russie. Pour les autres anciennes figures de l'appareil sécuritaire et répressif du pays, c'est plus flou. Ils sont maintenant des fugitifs. Et puis on va revenir aussi sur la nomination en France d'un nouveau Premier ministre, François Bayrou, au terme d'une journée riche en rebondissements.
Une nouvelle journée sous haute tension en Géorgie.
Oui, c'est le cas depuis plus de 2 semaines maintenant, depuis que le parti au pouvoir pro-russe a revendiqué la victoire aux élections législatives. Puis le gouvernement a décidé de geler le processus d'adhésion du pays à l'Union européenne. Les manifestations sont quotidiennes et ça ne devrait pas s'arranger aujourd'hui avec l'élection attendue d'un nouveau président. L'ex-footballeur d'extrême droite Mireille Kafelachvili, c'est un collège électoral contrôlé par le parti au pouvoir qui devrait l'élire aujourd'hui. L'opposition boycotte et se mobilise aussi. On vous retrouve en direct de Tbilissi, Anissa El Jabri. Nouvelle manifestation ce matin.
Oui, et dans cette manifestation où je me trouve sous une fine neige du vent et plusieurs degrés en dessous de zéro, eh bien on voit encore et toujours ces manifestants enveloppés parfois dans des drapeaux géorgiens ou européens. Et puis, malgré ce qu'ils décrivent tous comme un nouveau moment grave pour leur pays, eh bien les contestataires restent imaginatifs avec une forme d'humour acerbe. Ceux qui sont dans la rue ce matin jugent leur futur président illégitime, mais aussi sont très sévères sur son aptitude à la fonction et à les représenter à l'international. Alors, parce qu'il est un ex-footballeur, certains jouent donc au foot devant le Parlement. Plus direct encore, puisque Mireille Kavelachvili n'a pas fait d'études, eh bien, on s'est passé le mot pour venir ici avec des copies de diplômes et on les brandit dans le cortège. Une manifestante que j'ai croisée il y a quelques instants portait une pancarte sur laquelle elle avait écrit « Kavelachvili, j'ai 4 diplômes, comment pourrais-tu oser me regarder dans les yeux ?» L'opposition, elle, boycotte le scrutin. On trouve certains de ses représentants dans la rue. En tout cas, on a du mal dans cette foule à se projeter sur ce bras de fer qui continue et qui pourrait bien pourrir, mais on entend ici une demande de plus en plus forte, des prises de position plus fortes des Occidentaux, des sanctions de la part de l'Union européenne.
Merci Anissa El Jabri, en direct de Tbilissi, alors que l'actuelle présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a prévenu qu'elle refuserait de quitter son poste tant que de nouvelles élections législatives ne seraient pas organisées. Pour elle, la désignation de son successeur est une parodie et elle est illégitime.
En Corée du Sud, on prend les mêmes et on recommence.
Les mêmes 300 députés du Parlement, appelés comme la semaine dernière à se prononcer sur une motion de destitution du président Yoon Suk-yeol. La première, on s'en souvient, n'avait pas abouti. Le chef de l'État, critiqué et poursuivi pour avoir déclaré pendant quelques heures la loi martiale, avait pu compter sur le soutien d'une majorité de son camp qui avait quitté l'hémicycle pour faire échouer le vote. Cette fois, il pourrait bel et bien rester et renverser le président. Il faut 200 voix pour et il en manque seulement 8 du camp présidentiel pour que la motion soit adoptée. On est en ligne de Séoul avec notre correspondante Camille Ruiz. Camille, vous êtes devant le Parlement où le vote est censé avoir lieu dans les prochaines minutes et les manifestants attendent. Ils sont une fois de plus très nombreux à être mobilisés pour appeler au départ du président.
Oui, Gaëtan, tellement nombreux que la manifestation ressemble à un immense concert. Les artistes défilent sur une estrade, le son est diffusé grâce à des enceintes puissantes et les paroles des chansons sont remplacées par des phrases pro-démocratie. On sent beaucoup d'espoir de la part des plus de 200 000 manifestants rassemblés devant l'Assemblée nationale. Plus d'espoir même que la semaine dernière, puisque depuis, 7 députés du parti présidentiel ont annoncé être pour la destitution. En plus des bulletins de l'opposition, il faut au moins 8 voix du parti au pouvoir pour que la motion passe. Il ne manquerait donc plus qu'un vote pour que Yoon Suk-yeol soit suspendu. C'est la Cour constitutionnelle qui aura le dernier mot, destituer définitivement le chef de l'État ou le maintenir au pouvoir. En attendant ici, tout le monde a les yeux rivés sur l'écran géant installé sur le boulevard. On peut y voir ce qu'il se passe à l'intérieur de l'hémicycle en temps réel. Dehors, les manifestants profitent de boissons chaudes gratuites. Ils s'échangent aussi des chaussettes contre le froid. La température dépasse à peine les 0 0 degré ici à Séoul et la plupart des manifestants s'apprêtent à rester jusque tard dans la soirée. Mais tout dépendra des résultats du vote qui vient juste de commencer à l'Assemblée nationale.
Des résultats qu'on va suivre avec vous, Camille Ruiz, correspondante de RFI à Séoul. On va suivre aussi cette mobilisation des manifestants qui appellent donc au départ du président. La police dit attendre au moins 200 000 manifestants aujourd'hui devant le Parlement.
En Syrie, l'offensive des rebelles aurait pu être beaucoup plus longue et beaucoup plus sanglante, affirme le chef de la diplomatie turque.
Ça aurait été le cas, dit-il, si la Russie et l'Iran étaient intervenus pour soutenir le régime de Bachar al-Assad. Mais il affirme que c'est Ankara qui les a convaincus de ne pas le faire. Ils ont vu que ça n'avait plus aucun sens, ajoute le ministre turc des Affaires étrangères dans une interview accordée à une chaîne nationale privée.
Autre interview dans les pages du Guardian cette fois.
Un commandant militaire du HTS, Ayad Tahrir al-Sham, le groupe islamiste qui a mené l'offensive rebelle, affirme que l'opération baptisée « Repousser l'agression » était préparée depuis un an. Nous avons étudié l'ennemi en profondeur, analysé ses tactiques et nous avons utilisé ses connaissances pour développer nos propres forces, explique-t-il. Finalement, tout est allé très vite, 11 jours seulement, pour mettre fin à 24 années de règne du président Bachar al-Assad qui a fui à Moscou. On ignore par contre ce que sont devenus les principales figures de l'appareil sécuritaire et répressif du pays, des dizaines d'officiers de l'armée et des services de renseignement devenus des fugitifs, certains déjà condamnés ou inculpés à l'étranger. Ils sont nombreux aussi à être visés par des sanctions internationales, Nicolas Falaise.
Où est passé Maher al-Assad? Frère cadet de Bachar al-Assad, Maher commandait la 4e division de l'armée syrienne. Comme son aîné, il est visé par un mandat d'arrêt international pour son rôle dans les attaques chimiques de 2013 près de Damas. Maher al-Assad, personnage clé de la répression, mais aussi des réseaux mafieux de son pays, devenu ces dernières années un narco-État avec le trafic de captagon. Où sont passés Ali Mamlouk, Jamil Hassan et Abdel Salam Mahmoud, qui ont dirigé les institutions sécuritaires les plus redoutées du pays, et notamment les renseignements de l'armée de l'air syrienne. Ces trois hommes ont été condamnés par contumace en France à la prison à perpétuité pour leur rôle dans la mort de deux franco-syriens. On pourrait encore citer Hassan Ismail, Mohamed Dib Zaitoun ou Katan Khalil, surnommé le boucher de Daraya pour son rôle dans la répression meurtrière de la rébellion dans cette ville en 2012. Hier, leur nom faisait trembler. Aujourd'hui, ce sont des fugitifs dont on ignore s'ils se cachent en Syrie ou à l'étranger.
Mais ça n'a pas empêché des milliers de Syriens de descendre dans les rues hier pour célébrer la chute du régime. Des mobilisations observées dans la capitale Damas, mais aussi à Homs et Alep. Des ministres et hauts diplomates américains, européens, arabes et turcs doivent se réunir aujourd'hui en Jordanie pour évoquer le dossier syrien. Hier, les dirigeants du G7 qui avaient été réunis en visioconférence ont prôné pour une transition pacifique et ordonnée. Au Sénégal, le maire de Dakar, possiblement déchu de son poste. En tout cas, les autorités ont déclaré Barthélemy Diaz démissionnaire, mais lui annonce des recours à venir. En cause, une condamnation pour homicide datant de 2017 et qui entraînerait, selon le code électoral, son inéligibilité. Barthélemy Diaz a déjà perdu son mandat de député la semaine dernière pour les mêmes raisons.
En France, la fragmentation politique susceptible d'empêcher une consolidation budgétaire significative.
Oui, c'est l'avis de l'agence de notation Moody's qui a annoncé cette nuit dégrader la note souveraine du pays d'un cran. C'est désormais AA3 avec une perspective stable.
Un cadeau de bienvenue dont se serait sans doute bien passé le nouveau Premier ministre.
François Bayrou, le président du Modem, il a été nommé hier pour remplacer Michel Barnier après la censure de ce dernier et de son gouvernement. Lors de la passation de pouvoir, François Bayrou a reconnu être au pied d'un Himalaya de difficultés budgétaires notamment. Mais il y a un chemin à trouver qui réunisse les gens au lieu de les diviser, affirme le nouveau chef du gouvernement. Si la France insoumise a d'ores et déjà prévu de censurer le nouvel exécutif, ce ne sera pas le cas a priori du Rassemblement national. Le spectre de la censure, alors même que la nomination de François Bayrou a bien failli ne pas avoir lieu. Le maire de Pau faisait figure de favori, c'est vrai, toute la semaine, avant de voir sa cote baisser tout à coup à quelques heures de l'échéance. Emmanuel Macron a hésité jusqu'au bout, Valérie Gasse.
Bayrou ou pas Bayrou, le chef de l'État a eu bien du mal à trancher. Le centriste faisait pourtant figure d'homme de la situation. Emmanuel Macron l'a reçu deux fois. Les discussions ont encouragé François Bayrou à appeler notamment des élus locaux pour évoquer leur entrée au gouvernement. Ses proches le décrivaient confiant jusqu'à jeudi soir. Quand le gong des 48 heures annoncé par Emmanuel Macron comme le délai pour nommer le Premier ministre a sonné sans que la confirmation présidentielle soit arrivée. Le doute s'est insinué et pour cause, Emmanuel Macron gardait sous le coude deux alternatives, Roland Lescure et Sébastien Lecornu, des hommes plus rassurants pour un président affaibli depuis la dissolution, des profils d'animateurs plutôt que de chefs du gouvernement. Oui, mais humilier François Bayrou était risqué. Un proche d'Emmanuel Macron sentant le danger d'une rupture estimait qu'il faudrait traiter les conséquences avant la décision. C'est peut-être dans cet esprit qu'Emmanuel Macron a reçu François Bayrou vendredi matin à l'Élysée pour faire passer une mauvaise nouvelle. Mais le Béarnais s'est rebiffé. Un conseiller de l'Élysée explique qu'il s'est imposé comme la personnalité la plus consensuelle. Il s'est imposé. Emmanuel Macron a cédé.
Reste maintenant à nommer un gouvernement. François Bayrou débute dès aujourd'hui les consultations. Il doit recevoir notamment la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, mais aussi les chefs de groupe parlementaires. Un long portrait du nouveau Premier ministre français est à lire sur notre site internet RFI.fr. Confinez-vous, ne sortez sous aucun prétexte. Les habitants de Mayotte réveillés par ce même message reçu tôt ce matin sur leur téléphone portable, message envoyé par le préfet. L'alerte violette a été déclenchée dans l'archipel français. C'est le plus haut niveau d'alerte. Alors qu'un cyclone approche, baptisé Chido, il devrait s'accompagner de vents très violents et d'intenses précipitations qui commencent déjà à tomber à Mayotte. Des milliers de foyers sont privés d'électricité. La circulation est interdite. Les bars et restaurants fermés jusqu'à nouvel ordre.
Il est 2h11 à New York, heure d'hiver et peut-être bientôt heure tout court.
Ah oui, le président américain élu affirme que son parti va s'atteler à la suppression de l'heure d'été dans le pays. Elle est peu pratique et très onéreuse, affirme Donald Trump. Il prendra ses fonctions le 20 janvier, sous l'œil attentif des patrons des entreprises de nouvelles technologies qui n'hésitent pas à sortir le chéquier en guise d'allégeance, Guillaume Nodin.
$1 million, c'est manifestement le coût du ticket d'entrée pour essayer d'être dans les petits papiers de Donald Trump. C'est la somme payée par Mark Zuckerberg, patron de Meta, maison mère de Facebook, pour abonder au comité d'investiture du président élu. Il s'agit de la structure créée pour financer les festivités. Ses donateurs sont publics. Sam Altman, patron d'OpenAI, la société à l'origine de l'intelligence artificielle générative ChatGPT, a payé la même chose, comme Jeff Bezos, patron du géant du commerce en ligne Amazon. Après des années de désaccords publics avec Donald Trump, il fait des efforts. Il dit publiquement son optimisme au sujet de la prochaine présidence. Et pendant la campagne, il a empêché la prise de position publique du Washington Post, un journal qu'il possède, en faveur d'un candidat, traditionnellement le candidat démocrate. C'est que pendant cette campagne, et depuis qu'il procède à des nominations, Donald Trump n'a pas cessé de prendre une posture agressive contre les géants de la technologie, accusé de censurer ses idées et celles de ses amis. Des reproches dont est exempt Elon Musk, le patron de X, Tesla et SpaceX a lui dépensé $270 millions pour aider à l'élection de Donald Trump, un pari gagnant qui lui rapporte la mission de tailler dans les dépenses fédérales et qui lui donne une longueur d'avance sur les autres milliardaires de la technologie. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et puis un petit trésor découvert dans un garde-meuble au nord de Los Angeles. C'est un journal local américain qui le rapporte. Des cassettes avec une quinzaine de chansons inédites du regretté roi de la pop Michael Jackson. Le garde-meuble appartenait à Brian Loren, un producteur de musique qui a travaillé avec le chanteur disparu en 2009. Mais des illusions à venir pour ses fans puisque ces morceaux découverts pourraient ne jamais être diffusés pour des questions de droit.
Merci beaucoup Gaëtan Plenet, à tout à l'heure. RFI Matin, la suite, c'est un nouveau journal Afrique dans un peu plus d'un quart d'heure à présent. D'ici là notamment, retour sur les Oscars des jeux vidéo, les Game Awards. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi et Jennifer Lufo nous fait le panorama complet du palmarès. On écoutera aussi notre reportage culture avec une œuvre de 1762, très en avance sur son temps. L'Uomo Femina raconte l'histoire d'une île où les femmes gouvernent et où les hommes sont soumis au canon de beauté. Mais tout de suite, la revue de presse. Avec vous, Catherine Potel, autour de la presse internationale et à la une, François Bayrou, nouveau Premier ministre français.
Cette nomination inspire les journaux et les sites d'information français qui multiplient les jeux de mots pour Libération. François Bayrou à Matignon, c'est l'emprise du milieu. Alors que Mediapart s'exclame, on prend le modèle et on recommence. Mediapart sans pitié avec Emmanuel Macron. C'est l'histoire d'un cuisinier qui, après une bouillabaisse ratée, retournerait au fourneau avec les mêmes ingrédients, les mêmes ustensiles, mais un nouveau second. Moins porté sur les comparaisons culinaires, Le Monde remarque que l'agence de notation Moody's dégrade la note de la France d'un cran alors que François Bayrou prend ses fonctions. Ailleurs en Europe, Le Soir salue l'avènement d'une carrière de 40 ans. Trois fois candidat à la présidentielle, nous dit le quotidien belge, le centriste s'installe pour la première fois à Matignon. En Espagne, El País insiste sur l'âge du nouveau Premier ministre, 73 ans, et il calcule que François Bayrou était déjà député lorsqu'Emmanuel Macron avait 9 ans et qu'il en avait 16 lorsque François Bayrou est devenu ministre pour la première fois. Enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, Le Devoir titre « François Bayrou, Premier ministre d'une France en crise ». Ce Béarnais, nous dit le quotidien canadien, est réputé pour sa ténacité, ses colères et une certaine versatilité. Pourra-t-il tenir plus longtemps que Michel Barnier, interroge le journal, qui cite les premiers mots de François Bayrou « Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous ».
Dans la presse internationale également ce matin, Catherine, la Syrie.
Avec les témoignages de ceux qui ont vécu l'horreur du régime de Bachar el-Assad, l'envoyé spécial de la Repubblica s'est ainsi rendu à Douma, théâtre en 2018 d'un massacre à coups de bombe au chlore. Tawfiq Al-Diab, interrogé par le quotidien italien, a perdu sa famille lors de cette attaque. Il se souvient « Mes enfants tremblaient, une sorte de gelée jaune sortait de leur bouche. Ma femme me regardait avec les yeux grands ouverts, mais elle ne pouvait pas me demander de l'aide, comme si un tube lui avait été enfoncé dans la gorge. Je les ai vus mourir pendant que je perdais connaissance », raconte-t-il. Ses enfants s'appelaient Joudi, Mohamed, Ali et Kamar. Le plus jeune avait 8 ans, l'aîné 12 ans, poursuit la Repubblica. Tawfiq Al-Diab est ému en montrant leurs photos sur son portable. « Chaque fois que je vais à un mariage, à un anniversaire, j'aimerais que ce soit le leur », dit-il. « Je veux un procès pour les responsables ». Un témoignage à opposer aux affirmations des Russes et des partisans de Bachar el-Assad qui, pendant des années, rappellent la Repubblica, ont soutenu que cette horreur n'avait jamais eu lieu.
Et la Syrie, dont l'avenir reste incertain aujourd'hui.
Et les mêmes questions reviennent inlassablement au sujet d'Abu Mohammad al-Joulani, le leader des rebelles qui ont renversé Bachar el-Assad. Faut-il avoir peur de Joulani, se demande l'Orient le jour. A-t-il vraiment changé? Il est très difficile d'évaluer ce qui relève d'un changement tactique ou d'une vraie mutation idéologique, estime le quotidien francophone libanais. Un homme passé par les rangs de l'État islamique et Al-Qaïda peut-il devenir un chef d'État qui garantit le respect de la pluralité et des libertés publiques? Additionnant les pour et les contre, l'Orient le jour estime que oui, il faut probablement avoir peur de Joulani. Mais cette peur, ajoute le journal, ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. La Syrie est enfin maîtresse de son destin. Elle a en tout cas l'occasion de l'être avant que Joulani ne tente de renforcer son emprise. C'est à elle, à la Syrie, de décider ce qu'elle veut désormais en faire et à lui, une nouvelle fois, de s'y adapter.
Catherine Potel, la revue de presse, merci beaucoup. À demain. Jusqu'où va la science? Bonjour Caroline Lechowski.
Bonjour Julien.
Des empreintes de pas vieilles de 1,5 million d'années au Kenya révèlent la cohabitation de deux espèces totalement différentes de préhumains qui ont dû se croiser et partager le même territoire.
Découvertes en 2021 dans un état de conservation parfait, des empreintes de différents pas laissés depuis 1,5 million d'années dans la vase d'un ancien lac sur le site de Koobifora au Kenya ont tout de suite intrigué les paléontologues. Mais c'est l'analyse approfondie de ces empreintes, notamment la prise d'images en photogrammétrie pour les visualiser en trois dimensions, qui a révélé qu'il s'agissait de traces de pas entremêlées de deux espèces dominées totalement différentes. Hominines, c'est-à-dire de représentants de la lignée humaine depuis sa séparation de celle des chimpanzés. Deux espèces qui a priori n'auraient jamais dû se rencontrer et encore moins cohabiter. Un paranthrope, lignée archaïque aujourd'hui éteinte, et un homo erectus, c'est-à-dire un ancêtre des humains actuels.
Mais Caroline, comment les chercheurs ont-ils pu déterminer à qui appartenaient ces empreintes qui se sont entrecroisés il y a 1,5 million d'années?
Le paléontologue Kevin Atala de l'Université de Pittsburgh et de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive de Leipzig, auteur de l'étude parue dans la revue Science, s'est concentré sur une seule piste dite TS2, caractérisée par une suite de 13 pas qui se suivent, attribués à un seul individu et plusieurs empreintes isolées. En analysant la courbure de la voûte plantaire des 13 empreintes du même individu, aucun doute, il s'agit d'un Paranthropus boseyi, espèce archaïque aujourd'hui disparue. Mais les empreintes isolées, elles, sont différentes, bien plus proches des nôtres et quasiment identiques aux empreintes d'Homo erectus, mises au jour en Namibie dans des sols comparables, vieilles de 500 ans seulement. Ces Homo erectus et ce paranthrope, il y a 1,5 million d'années, ont donc marché au même endroit. À quelques heures ou à quelques jours près, ils se sont probablement croisés, ont certainement cohabité et dû se partager leur territoire, car de nombreux fossiles de ces deux espèces ont été exhumés dans cette région du Kenya. Et les chercheurs sont déjà en train de se repencher sur d'autres empreintes croisées d'hominidés dans la région. Car la révélation d'une telle cohabitation entre espèces préhumaines si différentes à tous les niveaux ouvre une autre fenêtre inédite sur notre buissonnante préhistoire. Et cela ne fait que commencer, car ce site de l'ancien lac de Koobifora au Kenya, particulièrement propice à la préservation d'empreintes de pas, nous réserve encore des surprises. Comme le souligne le paléontologue Kevin Atala dans les pages science du journal Le Monde, il est réconfortant de savoir que nos ancêtres ont pu être des voisins pacifiques vis-à-vis d'autres espèces d'hominidés pendant des centaines de milliers d'années, à bon entendeur.
Jusqu'où va la science ? Et Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine au programme autour de la question.
Lundi, on tentera de se mettre dans la tête d'une araignée et mardi dans l'œil du James Webb télescope pour observer l'univers comme vous ne l'avez jamais vu.
Ça fait rêver. Merci Caroline Lachowski.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
Bienvenue dans le game, comme chaque semaine, un œil sur l'actualité des jeux vidéo. Bonjour Jennifer Lufo.
Bonjour Julien.
C'est la cérémonie américaine qui récompense les meilleurs jeux de l'année. Les Game Awards ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi.
Et oui, les Game Awards, en fonction de là d'où vous nous écoutez, il y a des chances que vous l'ayez manqué. Mais j'ai suivi ça pour vous et je vous propose un résumé de cet événement toujours plus grandiose. D'abord, de grosses annonces de sorties de jeux telles que Rematch, un jeu de football créé par le studio français Slowclap, un nouveau DLC, donc une extension du jeu Elden Ring, l'annonce d'un nouvel opus de Outer Worlds 2 qui sortira en 2025, Split Fiction, un jeu en coopération par les créateurs de It Takes Two, Okami 2, mais aussi le tout nouveau jeu de Naughty Dog, Intergalactique. Par contre, l'annonce qui nous a le plus marqué reste celle de The Witcher 4, qui met en avant son héroïne, Ciri.
Et comme aux Oscars, parlons des catégories de récompenses de jeux et des nommés, en commençant par le jeu de l'année.
Pour les Game Awards du jeu de l'année 2024, on retrouvait parmi les prétendants Astro Bot, Balatro, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor, ReFantazio, Black Myth Wukong qui a fait sensation à sa sortie et a dépassé des records de vente, mais aussi un DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. Sa nomination était d'ailleurs contestée car il s'agit d'une extension du jeu et selon certains, un DLC ne devrait pas être nommé dans les meilleurs jeux de l'année. Bon, après une longue attente, le GOTY, donc le Game of the Year, le jeu de l'année, a finalement été annoncé et il s'agissait de Astro Bot.
Jennifer, on continue avec la catégorie du meilleur jeu familial.
Généralement, c'est Nintendo qui rafle la mise et ça risquait d'arriver cette année aussi puisque 4 jeux présentés sur 5 sont sur la plateforme ou ont été créés par Nintendo. C'est le cas de Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, Princess Peach Showtime, The Plucky Squire et enfin d'Astro Bot qui a été nominé dans plusieurs catégories. Mais pour les Game Awards du meilleur jeu familial, eh bien c'est Astro Bot qui remporte le prix. Voyons maintenant ce qu'il se passe du côté de la catégorie des jeux à impact, ma préférée. On y retrouve Hellblade 2, Senua's Saga, qui aborde des sujets de santé mentale, tout comme Life is Strange Double Exposure, mais également le jeu indépendant Neva, qui traite notamment du changement et de l'évolution de la nature. Enfin, Tales of Kenzera Zao, Indica et Closer the Distance sont également nommés. Et c'est Neva qui remportera le prix du meilleur jeu à impact.
Et Jennifer, quant au jeu le plus attendu en 2025, les joueurs ont voté.
Sans surprise, les joueurs et joueuses ont hésité entre Ghost of Yotei, GTA 6 Monster Hunter Wild, Metroid Prime 4 Beyond et Death Stranding 2 on the Beach. Mais pour le Game Awards du jeu le plus attendu en 2025, c'est bien GTA 6 dont on a vu les premières images cette année et qui d'ailleurs est restée absente de la cérémonie des Game Awards qui gagne.
Bienvenue dans le game, Jennifer Lufaux, merci beaucoup, à la semaine prochaine. RFI bientôt 7h30, en temps universel avant le prochain journal Afrique. Notre reportage culture, imaginez une île gouvernée par les femmes où les hommes sont soumis au canon de la beauté. C'est le sujet insolite et précurseur de l'Uomo Femina, l'homme-femme, créé en 1762. Cet opéra vénitien revient sur scène aujourd'hui en France à l'initiative du chef d'orchestre Vincent Dumestre et de la célèbre actrice et metteur en scène Agnès Jaoui. Une invitation à méditer sur le genre bien avant l'heure des combats féministes. Carmen Lunzmann vous présente cette satire musicale actuellement à l'affiche de l'Opéra Royal de Versailles.
C'est une fable baroque d'une modernité décoiffante. Créée à Venise au siècle des Lumières par un tandem de choc, le compositeur Baldassare Galuppi et son librettiste Pietro Chiari, l'Uomo Femina chante le monde à l'envers. Avec des femmes qui partent à la chasse, collectionnent des amants et règnent d'une main de fer sur les hommes qui, eux, restent confinés à la maison avec, comme seul passe-temps, la couture et le maquillage. Anna Séguin, baryton français d'origine marocaine, campe son rôle avec une expressivité folle et un look qui ne passe pas inaperçu.
Mon costume principal, c'est une jupe très courte et des bottes avec des talons. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude en tant qu'homme, même si aujourd'hui tout est possible et c'est très bien. Une autre contrainte qui vient se rajouter à tout ça, c'est une sorte de jupe qui m'empêche de faire des grands pas. C'est assez délicat pour chanter notamment.
Ça ne rigole pas quand on appartient au sexe faible. Ici les hommes, mis en scène par une femme et star du cinéma et du théâtre, Agnès Jaoui.
Et je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de cérémonies où à la fin, les femmes sont pieds nus avec leurs chaussures à la main, tellement ça fait mal aux pieds. Et donc ce sont des thèmes qui interrogent depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Et surtout la peur, la grande terreur des hommes d'être féminisés. Encore aujourd'hui, les hommes sont gênés quand ils doivent pleurer, ils vont moins consulter les thérapeutes, enfin tout ce qui est signe de faiblesse. Il y a une panique à tous les étages à chaque fois. Et donc j'avais pas envie qu'il y ait un monde si binaire. Moi je suis triste pour les hommes qui n'aient pas le droit de se maquiller, franchement, je trouve ça appauvrissant. J'ai essayé justement de faire que les frontières soient peut-être un peu plus floues.
D'où l'idée d'un harem d'hommes armés de sacs à main, vêtus de jupes plissées et de bottines dorées, dominés par des femmes au tempérament de feu. Le secret de ce pamphlet féministe avant l'heure réside dans l'esprit vénitien, selon Vincent Dumestre, chef d'orchestre de cette partition retrouvée au début des années 2000.
Depuis le XVIe siècle à Venise, c'est le jour des fous, c'est la transformation, c'est le monde à l'envers. Et c'est devenu une tradition vénitienne. D'où le carnaval de Venise. Et la place de la femme est en train d'évoluer dès le XVIIIe siècle. Par exemple, à Venise, il y a énormément de femmes qui ont un véritable rôle dans la culture. Pas simplement un rôle de décoration, mais les femmes tiennent salon, les femmes sont des philosophes, les femmes prennent la plume. Donc il y a une révolution.
L'Uomo Femina, l'homme-femme, à l'Opéra Royal de Versailles. C'était notre reportage culture signé Carmen Lunzmann. Et l'info continue sur RFI, le journal dans une minute. A tout de suite.
100% création, Maria Afonso.
Retournons à Notre-Dame de Paris avec 100% création. Découvrez les compagnons, artisans d'art ou designers qui ont travaillé sur ce chantier. Ce dimanche, le temps du mobilier est venu avec Yona Vautrin, la designer industrielle choisie pour imaginer les chaises de Notre-Dame. Retrouvez-nous à 7h55 et 12h54 TU sur RFI.
Ce dimanche, sur RFI, idée Pierre-Édouard Deldic.
Dans son livre « Itinéraire d'un bâtard de la République », David Duquesne parle de l'échec, selon lui, de l'assimilation en France. Il est avec nous.
Les minorités qui se battaient pour justement obtenir des libertés sont devenues des minorités tyranniques qui empêchent toute liberté. C'est ça qui est absolument affolant, inquiétant et même dangereux.
Idée proposée par Pierre-Édouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.